Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, le Conseil de sécurité examine la situation en Ukraine, la coordination humanitaire appelle à une trêve au Yémen, le Bureau des droits de l'homme appelle à traduire en justice les auteurs des exactions au nord du Nigeria, mais aussi les troupes internationales en RCA. En dossier, Adama Dieng revient sur la situation au Burundi. Enfin, nous célébrons la Journée internationale de l'environnement. Les violations du cessez-le-feu en Ukraine sont de plus en plus fréquentes et graves. C'est le constat inquiétant qu'a fait ce matin devant le Conseil de sécurité Alexander Hug, le chef adjoint de la mission spéciale d'observation en Ukraine de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a aussi signalé que la mission de l'OSCE avait été empêchée à de multiples reprises de contrôler le respect des accords de Minsk et que l'évolution de la situation à Marinka est particulièrement préoccupante. Mercredi, les combats dans cette ville située à proximité de la ligne de contact ont fait 28 morts. En tout, le conflit en Ukraine a fait au moins 6 400 morts, 1,3 million de déplacés et 870 000 réfugiés. Jeffrey Feltman, le secrétaire général adjoint aux affaires politiques, est également intervenu devant les 15.
Nous faisons face soit à l'aggravation d'un conflit inextricable ou à un regain de violence momentané dans certaines parties de la zone de conflit. Nous ne pouvons nous permettre aucun de ces scénarios. Une préoccupation immédiate est l'absence totale d'accès humanitaire le long de la ligne de contact dans les deux sens. Cela empêche d'acheminer une aide nécessaire pour la survie à ceux qui sont le plus dans le besoin. Le paquet de mesures pour la mise en œuvre des accords de Minsk, notamment le rétablissement du plein contrôle des frontières de l'État par le gouvernement de l'Ukraine a une échéance. Cette échéance est dans moins de 6 mois. Ni l'Ukraine, ni la région, ni la communauté internationale ne peuvent se permettre de laisser échouer ce processus.
Au Yémen, la situation se détériore pour les habitants. Plus de 20 millions ont besoin d'une aide humanitaire, selon les derniers chiffres du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Depuis le début du conflit, le 26 mars dernier, plus d'un million de personnes ont été déplacées suite au combat entre les forces rebelles houthistes et les forces de la coalition menée par l'Arabie saoudite. Jens Lerke, porte-parole d'OCHA, souhaiterait une nouvelle trêve pour parvenir en aide aux populations concernées.
Nous avons besoin d'une pause humanitaire, une pause plutôt durable, parce que la situation humanitaire est catastrophique maintenant au Yémen. On parle aujourd'hui de 20 millions de personnes qui ont besoin d'aide. La situation se détériore de plus en plus, le conflit continue, particulièrement le déplacement interne des gens. On estime aujourd'hui que 1 million de personnes ont été déplacés depuis le 26 mars. Ils ont tous besoin d'aide en termes de nourriture, de l'eau, d'assainissement, de l'abri, de la protection. On estime qu'il y a plus de 2200 personnes qui ont perdu leur vie. La moitié, ce sont des civils. Presque 10 000 personnes blessées depuis mi-mars.
Meurtre gratuit, exécution sommaire, participation forcée à des opérations militaires, utilisation des enfants pour faire exploser des bombes, travail et mariage forcé, violences sexuelles et viols sont autant d'actes de cruauté qu'ont subi les civils dans le nord du Nigeria aux mains de Boko Haram, selon les témoignages des personnes qui ont fui ou ont été rescapées. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Raad Zeid Al-Hussein, qui exhorte la nouvelle administration du président nigérian Muhammadu Buhari à traduire en justice les auteurs de ces violations. Ravina Shamdasani, porte-parole du Bureau des droits de l'homme à Genève.
Le haut-commissaire a exhorté la nouvelle administration du président Buhari à prendre des mesures urgentes pour traduire en justice les auteurs de violations des droits de l'homme, qu'ils soient acteurs non étatiques ou de l'État. Il faut que justice soit faite pour les crimes graves. Il a également appelé les autorités à ce que les opérations anti-insurrectionnelles ne conduisent pas à des violations plus massives des droits de l'homme dans le nord-est du pays. Ceci est très important pour assurer que les victimes des crimes de Boko Haram ne soient aussi les victimes de leur propre gouvernement.
Le même au commissaire aux droits de l'homme qui s'est vivement inquiété du sort d'au moins 11 personnes portées disparues en Centrafrique après avoir été arrêtées par des militaires congolais d'un contingent de la MISCA, la mission de maintien de la paix de l'Union africaine. Disparues le 24 mars 2014, parmi ces personnes figuraient 5 femmes et un enfant. Plus de 15 mois après leur disparition forcée, leur sort reste toujours inconnu. Aucune enquête transparente n'a été menée par les autorités centrafricaines ou congolaise, comme l'indique Cécile Pouilly, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
Ce qu'a essayé de déterminer l'équipe qui s'est rendue sur place à deux reprises, l'équipe du Haut-Commissariat, c'est de savoir ce qui s'est passé et ce qu'il est advenu de ces personnes. Il y a de fortes suspicions de disparition forcée, de torture et de meurtre extrajudiciaire. On ne peut pas laisser les choses en l'état. Même si la MISCA a vu son mandat se terminer en septembre 2014, l'enquête ne doit pas être abandonnée.
Ce vendredi est célébrée la Journée mondiale de l'environnement. Placée cette année sous le thème « 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons avec modération ». Et pour cause, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, si nous ne changeons pas nos modes de vie et de consommation d'ici 2050, nous aurons besoin de 3 planètes pour les maintenir. Michel Candotti, chef de cabinet du PNUE.
Le message du PNU, c'est un message global. C'est un message qui est valable pour tout le monde, pour tous les individus qui, avec ces comportements, ils peuvent absolument faire la différence et fournir des conséquences, de l'impact positif sur les ressources globales de la planète. Deuxième message, c'est au secteur de business et secteur financier pour pouvoir changer le comportement et donner des solutions technologiques modernes pour atteindre une vie commune et confortable à 7 milliards de personnes. Et le message final aux politiciens du monde, c'est embrasser avec une grande intelligence les changements politiques pour un développement durable.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité avec la crise politique au Burundi, alors que les tensions continuent avec la mort d'un manifestant ce vendredi. Le Conseil de sécurité et le secrétaire général se sont fendus de déclarations en fin de journée jeudi, appelant au calme et à la retenue et à continuer le dialogue. Les 15 qui avaient entendu le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide rendre compte de sa récente visite dans le pays. Adama Dieng qui nous fait part de son message au Conseil.
Aujourd'hui, la situation est assez tendue. J'ai malheureusement relevé qu'il y avait eu pas mal de pertes de vies humaines. Il y aurait au moins une quarantaine dans les deux camps. L'autre, c'est la continuation des violations des droits humains, surtout la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de manifestation, la liberté d'association. Un aspect, c'est la dérive ethniciste qu'il faut vaille que vaille éviter. Bien entendu, ma visite ne devait pas être considérée comme un signal d'alarme qu'un génocide immédiat allait arriver au Burundi, car au moment où je parle encore, heureusement, l'harmonie entre les deux ethniques prévaut. Et aujourd'hui, on a une armée composée à 50% de Hutus, de Tutsis, une police également mixte, un parlement mixte. Ceci dit, il ne faut pas oublier que le Burundi a une histoire qui a été faite de violence, qui a été faite de violation des droits humains. Ces 10 dernières années, la paix a prévalu. Je tenais donc à inviter le Conseil à tout mettre en œuvre pour prévenir l'escalade de la violence et l'escalade des tensions.
Ça veut dire quoi, tout mettre en œuvre pour prévenir l'escalade de la tension et des violences?
Ça veut dire encourager avant tout les efforts de médiation que mène Saïd Djinnit pour le compte de la communauté internationale. Saïd qui jusqu'ici a réussi quand même à faire un excellent travail. Ce qui est important par contre, c'est que les Burundais comprennent que la solution est entre leurs mains et que la communauté internationale ne peut que les accompagner de ce qu'elle est en train de faire, aussi bien au niveau des Nations Unies, mais aussi au niveau de la sous-région.
Alors en quoi a consisté votre récente mission?
La mission a été très bien accueillie, aussi bien par le président Nkurunziza, les autorités que j'ai rencontrées, la société civile, les partis. Tout le monde a compris que c'était important que le Conseil spécial effectue cette visite. Parce que la crise actuelle, quand bien même elle est de nature politique, elle pourrait changer demain de trajectoire et embrasser une dimension ethnique, comme cela a été le cas par le passé. C'est attirer l'attention de toutes les parties que si la la violence continue. Un, les responsables qui seront identifiés comme participants, collaborateurs, commanditaires, auteurs d'actes de violence seront traduits devant les organes judiciaires compétents, nationaux et ou internationaux, y compris la Cour pénale internationale. Le gouvernement doit s'abstenir de toute forme d'intimidation visant l'opposition, ceux qui s'opposent au troisième mandat, tout comme la société civile, les médias privés indépendants. Toute cette crainte, d'ailleurs, fait qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population qui est assez anxieuse au point de choisir le chemin de l'exil. Il faut donc rassurer ces populations. Et le meilleur moyen, c'est de maintenir le dialogue afin que la chance qui vient d'être offerte par Dar es Salaam en recommandant que les élections soient repoussées de 45 jours, que cette chance soit saisie par tous les acteurs et qu'ils mettent les intérêts des populations burundaises au-dessus de tout. Et ce n'est que ainsi que l'héritage du président Nkurunziza, PDP, pourra certainement être maintenu.
Ce vendredi est donc célébrée la Journée mondiale de l'environnement, à l'heure où le changement climatique et la crise écologique font craindre le pire pour l'avenir de notre planète. La Commission économique des Nations unies pour l'Europe a organisé une exposition de dessins au Palais des Nations unies à Genève, des dessins envers et contre tout de Tom Tirabosco, à qui Alpha Diallo a tendu le micro.
Ces dessins, ils ont été réalisés pour des dossiers, pour des articles en particulier qui traitaient chaque fois de problèmes environnementaux précis. Pas tous les dessins ont des messages. Je dirais que certains dessins sont plus des sortes d'évocations de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Certains sont drôles, d'autres sont plutôt poétiques. Ça dépend en fait des sujets.
Par exemple, ce dessin où on voit deux personnes qui marchent quelque part, c'est sur les Alpes ou bien c'est où? C'est sur la Lune?
Non, c'est sur la Lune, ça. Qui regarde la Terre, qui est comme un trognon de pomme, donc une terre qui aurait subi les assauts de la prédation des humains durant des siècles.
Un peu pessimiste.
C'est un dessin assez pessimiste, mais dessin, effectivement, les sujets qui sont abordés ne sont pas des sujets très optimistes. Hein, donc c'est un peu difficile de faire... Oui, on peut faire de l'humour sur ces dessins, mais c'est vrai qu'ils ont quelque chose derrière qui est peut-être un peu de l'ordre d'un sentiment assez désabusé, je dirais, de la situation.
Alors là, on voit aussi un dessin où il est bien mentionné « Stop au charbon », est-ce un hymne pour dire de rappeler la lutte contre le changement climatique? Qu'est-ce qui se passe exactement?
C'est un dessin qui dit que revenir au charbon, effectivement, à l'extraction du charbon, c'est un peu une folie aujourd'hui, alors qu'on sait que les réchauffements climatiques avancent à grands pas. Donc c'est aussi pour dire « Ouais, mais nous savons que nous devons mettre tous nos investissements et tous nos efforts dans les énergies renouvelables. Effectivement, ça coûte peut-être plus cher au départ, ça sera peut-être aussi plus long pour qu'il y ait une vraie rentabilité à terme, mais je pense que c'est la seule solution, c'est de réussir à se sortir de l'emprise du charbon et de ces énergies fossiles, en fait, qui sont en train de rendre le climat fou.
Aujourd'hui, quel est votre rapport par rapport à la nature, par rapport à l'environnement de façon générale?
Moi, j'ai toujours été assez engagé dans mon travail de dessin. C'est vrai que je me considère comme un artiste qui a envie aussi de participer au débat, qui a envie de dire aussi des choses. Je pense que les artistes, ils ont de tout temps dénoncé, ils ont mis le doigt là où ça fait mal, ils ont montré les choses et ils sont là aussi comme des lanceurs d'alerte. Voilà, on contribue aussi les artistes à faire avancer un petit peu les consciences et peut-être un petit peu faire avancer le schmilblick, comme on dit.
Et ce dessin, comment vous le commenteriez?
Ça, c'est une allégorie. C'est typiquement un dessin allégorique qui représente un personnage qui peut faire penser au personnage de Atlas qui portait la Terre sur ses épaules. Mais là, à la place d'avoir la Terre sur ses épaules, il a une espèce de terre qui est composée de déchets, de détritus et de poubelles et de tous les objets de consommation que notre société occidentale produit en surnombre chaque jour.
C'est une critique de la surconsommation, du gaspillage alimentaire?
Oui, c'est une critique de notre société de consommation. Oui, alors complètement, oui.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos lecteurs, à toutes ces personnes qui vont voir cette exposition? C'est-à-dire, quel est votre message aujourd'hui avec toutes ces conférences qu'on a sur le climat où on ne constate pas beaucoup d'avancées?
Et j'ai envie de leur dire qu'effectivement, il faut se mettre en mouvement, mais il faut réellement se mettre en mouvement. J'aurais envie de leur dire, mais pourquoi on n'essaie pas de changer d'imaginaire collectif? Parce que je pense que tant qu'on ne décide pas de changer, de planter autre chose dans la tête des gens qu'en consommant, en ayant beaucoup, beaucoup de choses, ils seront plus heureux. On ne va pas réussir à changer le mouvement. Donc, j'ai envie de leur dire, mais allons vers le moins pour retrouver plus de relations et de solidarité et de chaleur humaine.
Et c'est avec Tom Tirabosco que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. Bon week-end. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.